Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va. J'ai envie de vous parler de fatigue et j'espère que je ne vais pas vous fatiguer en ce lundi matin. Mais c'est un sujet qui me paraissait essentiel parce que la fatigue, c'est un pilier, hein, je trouve, de la santé mentale quand même. On a souvent tendance à se sentir fatigué, à dire je suis fatigué, à entendre oh là là, je me sens fatigué en ce moment. Et on associe très souvent cette fatigue à la fatigue physique et donc au repos qui passe par le sommeil, par des siestes, etc. Alors que parfois, il y a des fatigues qui sont d'ordre émotionnel et qui peuvent être réglées par des stratégies différentes et surtout des stratégies beaucoup plus efficaces que le sommeil quand on n'a pas de fatigue physique et qu'on ne sait pas forcément identifier ce qui se passe en nous. Donc l'idée, c'était d'explorer tout ça et peut-être donner des pistes de réflexion autour de ces sujets parce que je pense que c'est un sujet pour tout le monde, la fatigue. On s'est tous déjà retrouvés dans des moments où on se sentait fatigué, on se sentait faible et en même temps, dormir n'y changeait pas grand-chose. Donc voilà, l'idée, c'était de parler un peu de tout ça aujourd'hui. Alors, la fatigue. Bon, la fatigue, c'est un peu présenté, tu regardes la Larousse, la définition un peu basique, c'est vraiment le côté état de faiblesse physique qui se manifeste par le manque d'énergie, difficulté à accomplir des tâches. Enfin, vraiment, on est dans ce truc de faiblesse générale, voilà, du corps, de l'esprit, que ce soit par un manque de sommeil, par du stress, etc. Et la première fatigue qui est identifiée, c'est donc la fatigue physique. C'est celle qui est la plus courante, entre guillemets, dans nos représentations populaires, dans nos discussions, dans notre diagnostic, j'allais dire même personnel, on se dit ah là, je suis fatiguée, il faut que je dorme mieux, etc. Les symptômes de cette fatigue, ça peut passer par une sensation de lourdeur dans les membres. Vous savez vraiment ce côté, j'ai pas dormi de la nuit, je me sens crevée, quoi. Je me sens faible, j'ai du mal à me mouvoir, j'ai du mal à ressentir de l'énergie, j'ai vraiment un truc physique, mon corps vraiment tout entier. Se sent faible, se sent en manque de quelque chose. Vraiment, il y a ce manque de repos. Et parfois, ça peut venir aussi d'un manque d'activité physique, parce que le corps a besoin de bouger. Et donc, quand on passe des semaines, par exemple, dans une position similaire, je pense notamment à du travail de bureau, etc., le vendredi soir, on a cette sensation, alors bien sûr, de fatigue, hein, parce que c'est la fin de semaine et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, à force de parler de fatigue, j'ai envie de bailler. Pardon, c'est terrible. J'espère que je ne vous ai pas fait bailler en ce lundi matin. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'identifier la fatigue physique comme quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps et qui peut du coup être amélioré parfois par soit de l'activité physique, soit du repos, que ce soit du repos à court terme, donc une sieste, voilà, vraiment un temps de repos où on met le corps en inaction, entre guillemets. Et en même temps, le sommeil et l'hygiène de vie autour du sommeil qui est un pilier dans beaucoup, beaucoup de problématiques de santé mentale. Dans tous les cas, hein, si vous avez des problématiques au niveau de l'hygiène du sommeil, qui vraiment c'est des insomnies à répétition, etc., je vous invite vraiment à consulter un professionnel de santé parce que le manque de sommeil, ça peut être un des facteurs aggravants, un facteur de risque dans le développement de maladies mentales et de troubles psychologiques qui, par la suite, sont beaucoup plus graves, entre guillemets. Et une prise en charge au niveau du sommeil peut vous aider à éviter beaucoup de choses. Donc voilà, si vous ressentez une fatigue physique et chronique, où vous n'arrivez pas à avoir une hygiène de sommeil stable, vous faites des insomnies, vous vous relevez beaucoup la nuit, etc., il y a des solutions qui existent. Et vraiment, voir un professionnel, c'est tout à fait recommandé dans ce cas-là, parce que le sommeil, c'est encore une fois la base pour notre cerveau. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus crié, décrié, mais non, au contraire, crié sur tous les toits et par beaucoup de professionnels qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau et au fonctionnement des neurones et des neurosciences, c'est que le sommeil est fondamental. Donc voilà. Mais en tout cas, la fatigue physique, on va dire que c'est celle qu'on connaît, donc pas m'attarder dessus. Après, je voulais parler de la fatigue mentale.
La fatigue mentale, je l'identifie moi comme un peu une surcharge cognitive. Ça peut être dû à la fois le manque de sommeil, hein, bien sûr, mais vous savez, cette charge mentale, en fait. Ça peut être charge de travail, ça peut être charge mentale du quotidien, responsabilité quotidienne, le stress. Moi, je l'identifie comme vraiment un hamster qui tourne dans sa roue sans cesse et qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est une des fatigues pour moi qui est la plus présente dans ma vie, c'est cette fatigue mentale. C'est vraiment ce moment où vous avez l'impression que vous n'avez pas de bouton on-off, que votre cerveau est en roue libre et quelque part que c'est un peu envahissant. Parfois, c'est envahissant par des pensées de stress, par de l'anxiété, par de l'anticipation, par de la suranticipation. Et donc ça peut être tout à fait des symptômes et des signes qui peuvent vous pousser justement à consulter dans le cadre de troubles anxieux, même de beaucoup d'autres pathologies psy. Et là, pour le coup, je vous invite vraiment, si c'est trop envahissant, à consulter. Et si c'est par petite période, de vous identifier qu'en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, que vous avez justement ce hamster qui tourne dans sa roue, là, sans s'arrêter, et que vous n'avez pas trop comment prendre un peu de recul sur vos pensées, sur ce qui se passe, il y a beaucoup d'outils qui existent, qui sont vraiment intéressants et qui sont à s'approprier, hein, bien sûr, parce que souvent, on entend « Ah, bah, fais de la méditation, ça va t'aider. » Ça dépend. Ça peut ne pas du tout vous aider. Au contraire, quand vous avez des pensées comme ça qui tournent en boucle dans votre tête, le fait de vous poser, de dire je ne pense à rien, c'est hyper dur. Au contraire, vous avez une intensification de ces pensées et au contraire des ruminations encore plus importantes. Donc l'idée, c'est pas de faire ce que tout le monde dit de faire, hein. L'idée, c'est de trouver ce qui est bien pour vous et bon pour vous. Je sais que dans le coaching Take Care avec Mathilde, on a tout un module sur le stress et la gestion du stress et notamment sur les pensées et trouver des scénarios alternatifs et même le fait d'écrire parfois. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour gérer la fatigue mentale, c'est l'écriture. Je me suis mise à écrire dernièrement dans un journal. Je ne sais pas si ce sera sorti à l'heure où le podcast sort. Si vous entendez ce passage, c'est qu'il est sorti. Sinon, je demanderai au monteur de le couper. Mais du coup, là, vous ne le saurez pas vu que vous êtes en train de l'entendre. Ça veut dire que non, je ne l'ai pas coupé et que oui, on a sorti sur Take Care notre nouveau bébé, un carnet de journaling et d'introspection parce que j'ai beaucoup de messages de votre part de personnes qui sont hyper intéressées quand je parle justement du fait d'écrire et de prendre du recul sur ses pensées, mais qui me disent mais en fait moi je ne sais pas par où commencer et si j'ai juste un carnet devant moi, je me sens perdue, je ne sais pas quoi écrire, j'ai l'impression d'avoir un journal intime comme quand j'avais 12 ans et ouais, je ne sais pas vers quelle direction me tourner quoi, avec mon stylo dans une main, mon carnet dans l'autre et je suis un peu perdue. Et l'idée, c'était de pouvoir vous proposer un journal guidé avec une page différente par jour. Ce n'est pas daté, donc vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire une page par jour, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de le faire à son rythme. Le journal s'appelle Une page, un jour, et non pas Un jour, une page, parce que ça signifierait qu'il faudrait absolument remplir une page par jour, pas du tout. Là, c'est une page est égale à un jour, mais c'est le jour que vous choisissez quand vous en avez envie. Et vous avez deux questions qui sont similaires à chaque page, et vous avez une question qui change tout les jours pendant 365 jours, donc potentiellement une année si vous décidez de le faire tous les jours ou alors beaucoup plus si vous espacez. L'idée, c'est de vous guider sur des petites questions qui peuvent parfois permettre justement de mettre des mots sur ce qui tourne dans votre tête. Moi, je sais que je suis une adepte des applis, des logiciels, de trucs qui me permettent de déverser mon cerveau parce que très souvent, tant que je n'ai pas noté, je vais avoir surcharge mentale en fait qui tourne en boucle dans ma tête et c'est pas forcément, alors en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément des pensées anxieuses, d'anticipation, de « et si se passait ça ?»« Oh mais j'ai oublié ça !»« Oh mais j'ai peur qu'il se passe ça !» Bref, ça peut arriver dans des moments de stress, mais le plus souvent, ça va plutôt être de la charge mentale de me souvenir de faire quelque chose, de noter une idée, de me souvenir d'un rendez-vous, une réflexion sur une idée que j'ai, la créativité qui a du mal à s'exprimer parce que je suis dans un moment où genre, je ne suis pas du tout branchée sur de la créativité, mais mon cerveau a une idée et ça tourne en boucle. Et en fait, le fait d'avoir un moyen de le poser sur un papier ou même à l'ordinateur, si c'est ce que vous préférez, eh bien, ça libère d'une certaine façon. Moi, parfois, j'écris 2-3 mots. J'ai un carnet dans ma table de nuit où j'écris des fois la nuit. Ça m'arrive de me réveiller, d'aller faire pipi et d'avoir une idée sur un truc et de me dire mais si je le note pas, je vais l'oublier et je vais être frustrée le lendemain. Donc parfois, je vais juste le noter. Je note 3 mots Et le lendemain, soit ça me parle pas du tout, soit ça me parle, et dans ces cas-là, bah, je sais que c'est une idée que je peux explorer. Et donc voilà, cette fatigue mentale, cette, quand, surtout quand vous êtes quelqu'un de créatif, que vous avez beaucoup d'idées, que vous êtes entrepreneur aussi, hein, on peut se le dire, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions que j'ai avec des personnes qui montent leur boîte ou qui ont des projets comme ça, qui font appel à la créativité, aux idées, au fait d'innover, etc. Il y a ce truc-là où votre cerveau est souvent entraîné à penser et à réfléchir sur de la nouveauté, sur des tâches à effectuer, sur une notion de productivité, et ça peut être une fatigue mentale énorme, vraiment, parce que c'est difficile à gérer. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé, ça a été le motif vraiment d'une thérapie, d'un début de thérapie que j'avais commencé avec une professionnelle de santé. Bon, ça ne l'a pas fait parce que j'ai pas matché avec la psy en question, mais concrètement, c'était vraiment un motif de consultation où à un moment donné, je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin d'outils pour me reposer mentalement, en fait. Et donc, depuis le journaling m'a beaucoup aidé, et c'est un outil qui personnellement me convient. Encore une fois, testez de nouvelles choses. Faites-vous aider si ça devient trop envahissant. Et si vous sentez que c'est passager et que vous pouvez le gérer par vous-même, n'hésitez pas à tester différents outils et de trouver ce qui vous va. Si c'est la méditation, tant mieux. Si c'est vous balader en nature, baladez-vous. Si c'est faire de l'exercice physique, allez faire du sport. Si c'est écrire, écrivez. Mais voilà, n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, parce qu'on est tous différents. Et encore une fois, cette fatigue mentale, elle est complètement personnelle en fonction de qui vous êtes et comment ça fonctionne aussi chez vous. Mais c'est une fatigue qui est beaucoup plus difficile à gérer, je trouve, que la fatigue simplement physique, parce qu'on ne maîtrise pas. Hein, le cerveau, parfois, il est un peu en roue libre. Et justement, de se donner d'autres stratégies et d'avoir un recul sur ses pensées et de pouvoir les exprimer autrement, c'est parfois une respiration qui est complètement nécessaire. C'est une pause mentale, en fait, qui n'est pas évidente, mais qui est parfois vraiment salvatrice quand c'est des moments très stressants de votre vie et que votre cerveau est un peu en roue libre. C'est le mot de cet épisode. Voilà pour la fatigue mentale. Et la dernière fatigue dont je voulais vous parler, c'est pas exhaustif, hein, je pense qu'il y a peut-être d'autres types de fatigue dont je n'ai absolument pas parlé dans cet épisode, mais l'idée, c'était d'évoquer en tout cas celles qui, à mon sens, étaient les plus communes et qu'on n'identifiait pas forcément facilement. C'est la fatigue émotionnelle. Vraiment, cette fatigue qui est causée par souvent un trop-plein d'émotions négatives qu'on n'arrive plus à gérer. Souvent, je veux dire, la vie n'est jamais faite que d'émotions positives. J'aime pas trop classer les émotions, parce que être triste, ce n'est pas être moins bien qu'être joyeuse, pas du tout. Mais en tout cas, on pourrait peut-être parler quand même d'émotions désagréables, parce que la tristesse, la colère, bon, à long terme, on sait quand même que c'est pas forcément des émotions qui sont hyper cool à ressentir au quotidien. Et cette surcharge émotionnelle, elle peut être difficile quand elle est récurrente, et que vous avez l'habitude de pouvoir la gérer par petites doses, et au bout d'un moment, quand l'équilibre se déséquilibre et que vous ressentez davantage d'émotions désagréables que d'émotions agréables. On a ce truc-là de lassitude, c'est-à-dire vraiment ça manque de respiration, ça manque de joie, ça manque de possibilités, et il y a ce truc un peu de perte d'espoir, où on broie du noir, où on est dans des ruminations qui sont pas hyper cool, et on a un filtre en fait qui sur la vie devient beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile à appréhender, et ces petits moments de joie, ces petites victoires du quotidien, on a l'impression d'en avoir moins et de moins les apercevoir et de moins pouvoir les souligner, de moins pouvoir s'en nourrir en fait au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une fatigue émotionnelle, et c'est ce que j'identifie chez moi en tout cas comme une fatigue émotionnelle. C'est-à-dire ces moments où je pense pas réellement qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tristesse et de colère dans ma vie, ou d'émotions justement désagréables, ou de peur, etc. Mais je suis dans un état émotionnel qui fait que je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose que ça. Et c'est difficile, justement, alors cette expression que je déteste, voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein, parce que c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, c'est un peu la métaphore que je peux utiliser, la métaphore que tout le monde peut comprendre. C'est vraiment cette période de vie où, justement, tu le vois à moitié vide, et ton filtre et ton énergie, tes ressources, ton environnement sont plutôt à plat, et ce réservoir en fait est plutôt vide et ne te permet pas en fait d'enclencher les stratégies nécessaires nécessaire pour se raccrocher aux petits trucs de la vie. Et c'est parfois hyper difficile. Alors, quand ça devient trop récurrent, encore une fois, on le répétera jamais assez. Et encore plus quand je suis dans des épisodes solo, parce que Mathilde n'est pas à mes côtés. Mais vraiment, si ça devient trop envahissant, si c'est quelque chose qui vous empêche de mener une vie normale, à savoir vous alimenter, avoir des relations sociales, prendre du plaisir, etc., ça peut être des signes et des symptômes de
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
De pression, de maladies psychologiques qui doivent être prises en charge, pas simplement par vous-même. Hein, ce sont des maladies au même titre qu'une grippe, au même titre qu'une personne qui souffre de diabète, au même titre que, voilà, encore une fois, on le répétera jamais assez, on va pas dire « Oh ben, bouge-toi hein, à quelqu'un qui souffre de diabète », ben, on fait pareil pour quelqu'un qui souffre de dépression. On évite ce genre d'injonction et on conseille plutôt d'aller se faire aider et d'aller consulter quelqu'un qui sera en capacité de lui apporter un vrai soin, en fait. Mais là, je parle pas de cas de dépression ou voilà. Mais par exemple, en cas de petite déprime notamment, on a ce filtre qui peut être présent. Des moments qui sont plus difficiles que d'autres, des événements qui font que ça amène beaucoup de stress, d'anxiété. Et donc cette fatigue émotionnelle-là, elle peut être très, très difficile à gérer. Je pense notamment, personnellement, à des périodes où je vais avoir beaucoup de personnes autour de moi qui comptent sur moi, ou beaucoup de personnes qui vont mal et que je vais particulièrement écouter, ou je vais pas savoir mettre les limites dans des moments où j'aurais besoin de prendre davantage du temps pour moi, et je vais du coup être dans ce truc de vouloir aider l'autre à tout prix, mais sans respecter mes propres limites et en me mettant du coup dans une fragilité. Là, je sens que c'est des moments où émotionnellement, ça peut être beaucoup plus compliqué, et ça m'amène une fatigue émotionnelle qui peut être difficile à gérer. Donc voilà, je pense que c'est les trois fatigues que j'identifie les plus présentes au quotidien, et ce sont celles que je me sentais d'aborder dans ce podcast. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais l'idée, c'était de pouvoir se dire qu'il n'y a pas simplement que la fatigue physique, et que parfois, il y a d'autres fatigues qu'on ressent, qu'on ne nomme pas forcément, mais qui peuvent être comblées par d'autres besoins que celui de dormir. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé des fatigues, on va parler des repos, parce qu'il y a des solutions, oui, mesdames et messieurs. Non, parce que moi, j'aime bien finir sur une note un peu positive. Donc, on va parler des différents types de repos et de tout ce qui peut être mis en place en fonction de ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Et je vais vous faire une petite liste et vous me direz si vous pensez à d'autres choses, parce que c'est toujours intéressant. Et parfois, je lis vos petits messages et je suis là, ah, mais ouais, mais c'est vachement... Mais oui, c'est vachement vrai et c'est vachement cool. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Comme je vous ai parlé de la fatigue physique en premier, je me suis dit que j'allais vous parler du repos physique en premier pour continuer dans la lignée. Bon, le repos physique, ça parle de lui-même, hein, forcément. C'est le fait de se reposer, de reposer son corps à la fois par une très bonne hygiène de sommeil. Et ça, on ne le répétera jamais assez. C'est un pilier de la santé globale, que ce soit la santé mentale ou physique. D'ailleurs, il y a un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» que je vous recommande sur le sujet. Et on avait fait un épisode de podcast aussi dans les saisons précédentes où on en parle pas mal. Donc voilà, le sommeil, c'est vraiment... un pilier. L'hygiène de sommeil, je pense que c'est une des choses à privilégier quand on veut commencer à vraiment instaurer davantage de bien-être dans notre vie et prendre soin de soi. Ça passe complètement par cette hygiène de sommeil, et on dort de moins en moins et on dort de moins en moins bien, notamment à cause des écrans et de beaucoup de choses. Donc c'est important de le prendre quand même en considération et bien sûr de s'adapter à notre monde actuel, mais de ne pas l'oublier, de ne pas faire l'impasse, quoi, parce que ça peut être vraiment embêtant pour beaucoup de problématiques. Et le repos physique, c'est très important. Il y a bien sûr tout ce qui est activité physique. On n'en parle pas assez parce qu'on se dit à repos, je vais pas faire de sport. Mais en fait, bouger son corps, ça fait partie aussi du repos et de la santé, en fait, de son corps. C'est pas forcément aller 4 heures par jour à la salle. Pas du tout, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mon truc, mais ça peut passer par juste un mouvement d'étirement, un mouvement lent. Moi, j'adore le yoga, mais j'adore le yoga doux, j'adore le yoga cocooning. Moi, je vais dans les cours de yoga de Paola qui est sur Take Care, hein. Si vous ne le savez pas, dans le coaching Take Care, on a tout un module sur le yoga, justement, et sur le rapport au corps. Et le yoga doux, moi, les séances de yoga doux du programme Take Care, je les connais par cœur. Elles sont salvatrices pour moi, parce que quand vous avez envie de bouger votre corps, que vous avez souvent une position garçon qui est complètement immobile toute la semaine et que vous êtes derrière un bureau et que votre corps ne bouge pas, c'est plus difficile déjà d'avoir une bonne hygiène de sommeil parce que votre corps ne bouge pas. Et en plus de ça, même pour le côté tension, muscles, articulation, stress, circulation sanguine, etc., ça peut être un manque. Donc le repos physique passe aussi par cette activité. Parfois, ça peut être aussi juste d'aller se balader ou d'autres personnes qui aiment des sports collectifs. Je pense que c'est vraiment une des choses qui va venir nourrir à la fois le physique et le mental. Quand on fait du sport, on le sait, il y a le côté hormonal qui se déclenche avec l'endorphine, etc. Donc il y a cette addiction, j'allais dire, addiction dans le bon sens. Hein. L'idée, c'est pas de partir dans les extrêmes, mais le corps s'habitue parce qu'il est heureux, en fait, hein, et qu'il reçoit des bonnes choses. Et ça fait partie aussi du bien-être global. Donc voilà, dans le repos physique, il y a vraiment ces deux aspects. Ensuite, on passe au repos émotionnel. Le repos émotionnel, ça passe par beaucoup de choses. Ça peut passer par une discussion avec des personnes qui sont ressources pour vous, être entouré de personnes qui vous font du bien, avec qui vous pouvez avoir une écoute active et une écoute bienveillante, ça veut dire une écoute sans jugement. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui nous donne son avis. On peut simplement avoir des personnes qui sont suffisamment de confiance pour nous écouter, pour être dans une discussion sans jugement, sans interprétation, sans transposer forcément la vie de l'autre et la vie de l'autre, la vie AVIS et VIE de l'autre, parce que parfois c'est difficile quand on a des moments de moins bien, on n'ose pas forcément parler autour de nous parce qu'on a peur d'embêter, on a peur de gêner, on a peur de pas être assez légitime, on a peur que ce soit pas assez grave pour en parler, on se dit toujours ah oui, il y a pire que moi, mais en fait vous êtes légitime et des personnes qui sont autour de vous et qui veulent votre bien doivent pouvoir aussi vous entendre sans avoir forcément de conseils ou d'avis à donner, mais simplement pour être une écoute et un recueil, un accueil en tout cas bienveillant et dans le respect. Donc ce repos émotionnel, il peut passer par de belles discussions avec des personnes qui vous font du bien et aussi par la thérapie bien sûr auprès de professionnels. Souvent j'entends ah mais moi je vais pas voir un psy parce que c'est pas assez grave ce que j'ai, mais il n'y a pas d'échelle du pire en fait. Aucun bon psychologue en tout cas va vous refuser parce qu'il considérera que vos problématiques sont pas assez importantes. Je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai eu envie de consulter parce que j'avais l'impression d'avoir un hamster qui tournait dans sa roue dans ma tête. Alors c'est une métaphore hein, parce que réellement je ne pense pas que j'ai un hamster dans la tête, mais ce que je veux dire par là c'est que concrètement je me sens ni en état dépressif, je pense pas avoir de troubles ni de la personnalité ni troubles psychologiques ni des TOC, ni des troubles du comportement alimentaire. Voilà, tous ces sujets-là qui sont assez courants et communs en motif de consultation. Pour autant, le développement personnel et la connaissance de soi, ça passe aussi par une écoute et par parfois un regard d'un professionnel. On peut avoir besoin d'avoir ce regard-là complètement neutre de quelqu'un qui est hors de notre cercle proche et cercle social. Donc le repos émotionnel, il peut passer aussi par cette prise en charge et par cet endroit, cet espace d'écoute qui vous est dédié lors d'une thérapie. Et c'est hyper important pour moi de l'inclure là-dedans parce que quand on sent qu'il y a un trop-plein, parfois ça fait du bien d'avoir cet espace et ce moment dédié aussi pour vous qui est planifié, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler du repos social. Le repos social, pour moi, je l'identifie comme la relation qu'on a et le cadre qu'on fixe avec les autres, que ce soit notre cercle professionnel, notre cercle amical, notre cercle familial, d'équilibrer ce temps-là. Et on en parle dans beaucoup d'épisodes, savoir se poser des limites entre ce qui est attendu par les autres et ce que vous identifiez comme de bon pour vous. Quand vous sentez que c'est trop, quand vous sentez que ces relations-là, elles sont en train plus de vous épuiser que de vous apporter de l'énergie, que vous êtes dans un moment où votre réservoir est vide et où il y a certaines personnes, certaines relations que vous ne pouvez pas entretenir parce que vous n'en avez pas la possibilité et que vous avez besoin de ce repos social en choisissant qui est-ce que vous allez voir, avec qui est-ce que vous allez entretenir ce lien, qui est en capacité à ce moment-là de vous apporter du réconfort. Ça peut passer par là aussi, le repos social. Et c'est OK de ne pas sortir un samedi soir parce que vous ne le sentez pas. C'est OK de refuser d'aller à une soirée parce que vous avez envie d'être sous un plaid en regardant une série. C'est OK. Les liens sociaux peuvent être parfois épuisants. Ça peut être vraiment au niveau de l'énergie compliqué de tout assurer, de tout assumer. Donc quand vous ressentez et que vous identifiez que vous êtes dans une période où socialement vous avez plutôt besoin de vous retrouver dans des moments seuls ou des moments avec des personnes qui vous ressourcent, n'hésitez pas à prendre ce repos social, c'est totalement OK. Ensuite, je voulais vous parler du repos créatif. Alors, c'est un repos qui pourrait s'apparenter même au repos mental. Je l'appelais créatif parce que, pour moi, c'est le repos qui s'apparente aux activités plaisantes, en fait. Ça peut passer par écouter de la musique, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par peindre, jouer de la musique, écrire. Ce qui va faire appel à l'imagination hors écran. Parce que c'est aussi une forme de repos de se séparer un peu de nos écrans et de ce scrollage infini qui est une forme de fatigue, je pense. Mais ça, on pourrait en dédier un épisode entier. Mais bref, le repos créatif, entre guillemets, pour moi, c'est le repos où on investit du temps dans des activités qui nous font du bien. On peut tester de nouvelles choses, des activités qui parfois sont lentes, font pas forcément appel à beaucoup de réflexion, etc. Qui ont un côté un peu méditatif, hein, quand on peint, quand on joue de la musique, quand on va aller, je sais pas, cueillir des fleurs. Voilà, c'est des activités qui peuvent venir nourrir en nous, ouais, à la fois notre imagination, ce côté un petit peu retour en enfance d'activités simples, d'instant présent. En fait, il y a vraiment ce truc-là de juste profiter de ce qui est en train de se passer, sans penser à ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer. Voilà, c'est une forme de repos que je trouve intéressante et qui peut s'imbriquer dans une routine, de se dédier des moments, en fait, vraiment comme ça dans sa vie, où on investit des activités qui nous font plaisir et des moments où on cultive notre imagination, notre insouciance, vraiment ce côté contemplation. Voilà, je pense que c'est un repos qui peut être intéressant à explorer, et que moi je découvre de plus en plus, et qui fait beaucoup de bien, surtout quand on est du genre à avoir pas mal de fatigue mentale, et justement de penser comme ça un peu intrusive, en mode hamster, voilà, ce petit hamster qui est la mascotte de cet épisode finalement. Et ensuite j'ai noté le repos sensoriel. Ça va passer par tout ce qui fait appel à vos sens. Ça peut être des textures qui vous rassurent, ça peut être le silence, ou alors des bruits qui vous font du bien. Moi, je sais que les bruits de la nature, quand je suis en pleine nature, dans une forêt, d'entendre les oiseaux, le crissement du bois, les potentiels animaux, voilà, la nature qui vit, c'est quelque chose qui me repose énormément, mais vraiment, je pourrais avoir une bande son, je pense, H24. Je sais pas si ça ferait effet au bout d'un moment, mais ce côté nature me fait beaucoup de bien. Pour certaines personnes, ça va être le silence total, pour d'autres, ça va être les bruits blancs, pour d'autres, ça va être le bruit de l'eau. Bref, parfois, ça passe par, au niveau sensoriel, un silence. Vraiment, il faut trouver ce qui vous fait du bien, mais ce côté sensoriel de ne pas être forcément sollicité par des écrans, par des appareils électroniques, par tout ça, c'est une forme de repos parce qu'on est tellement sollicité par différents écrans, que ce soit des tablettes, des téléphones, des iPods, des écrans lumineux dans la rue, de la publicité, la télé, nos ordinateurs, bref, il y a tellement de choses qui nous sollicitent au niveau sensoriel dans nos journées, que parfois ce repos-là, de pouvoir un petit peu extraire de nos vies toutes ces stimulations et ces sollicitations, c'est une forme de repos qui peut faire beaucoup de bien, et moi je sais que je l'inclus maintenant, pendant mes vacances, de couper un peu justement ces sollicitations, parce qu'on se rend pas compte en fait de ce temps passé et de la fatigue que ça peut engendrer. Donc le repos sensoriel, voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut aussi être une piste à explorer. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. J'essaie de structurer un peu différemment les épisodes pour que vous puissiez vraiment utiliser les outils qu'on partage ici pour vous. Certains résonneront pas du tout en vous et c'est totalement OK. D'autres, peut-être, seront des pistes de réflexion pour du mieux être dans vos vies, et c'est ce qu'on souhaite ici, en tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu, encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir en description de ce podcast, sur les réseaux, toutes les ressources qu'on vous partage. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.